que ce soit, on avait les genres de la littérature orale sont de moins en moins nombreux à traduire. On est passé vraiment des grands textes, des mythes épopées, où là, on avait vraiment les professionnels de la parole, c'est des textes immenses, énormes, du conte à la légende, au chant, aux fables. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle, dans le jargon, disons, des chercheurs en littérature orale, les petites formes. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des toutes petites. Ça se limite des fois à une phrase, ça se limite des fois à deux. Donc, dans ces petites formes, en gros, il y a les proverbes qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas toujours, dans leur fonction traditionnelle, les dictons, qu'on confond souvent avec les proverbes d'ailleurs. On va voir aussi qu'est-ce que les devinettes, les énigmes, pareil, on confond souvent les énigmes et les devinettes. Les mêmes fonctions. On va voir qu'il y a aussi ce qu'on appelle les virelangues. Ce soir, il y a une grande tablée. Hein. Il y a les virelangues, il y a les vire-oreilles, il y a tout ce qu'on va appeler les formulettes, les mnémologismes. Voilà. Donc, toute une série de petites formes comme ça qui sont pratiquées dans la tradition populaire de façon presque inconsciente. Je dirais qu'aujourd'hui, pas des fois, on pratique encore le proverbe sans même s'en rendre compte sur une réaction, sur espace d'à propos, voire sur de l'humour, hein, comme disait Coluche, hein, mais ça c'est plutôt un dicton, on disait neige en novembre, Noël en décembre. Hein, donc même dans l'humour, on s'en sert encore. Voilà. Alors les proverbes, en fin de compte, c'est sûrement bien sûr une forme très courte, c'est souvent un message hyper concret. Hein, c'est des choses qui ne badinent pas avec la réalité, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes qui ne sont pas toujours bien sûr dites directement. Hein. Mais il y a toujours derrière quelque chose qui va nous mettre en éveil. Pour certains peuples d'Afrique, c'est des paroles de sagesse. C'est des choses qui doivent éveiller. Alors pour nous, ça paraît complètement ringard aujourd'hui. Les proverbes sont des choses qui sont aussi très très dépendantes d'un contexte. C'est très compliqué de comprendre les proverbes d'une autre culture. Par exemple, on verra qu'il y a des dictons, c'est peut-être plus facile, parce que quelque part, c'est tellement dépendant d'un contexte, d'une culture, d'une façon d'envisager le monde, que c'est toujours un peu compliqué. Des fois, on a du mal. Hein, voilà. On rentre dans des choses très, très compliquées. Alors, les proverbes, ce qu'il y a au niveau, disons, européen, en tous les cas, c'est surtout quelque chose qui est très rythmique. On peut dire qu'ils sont presque binaires, les proverbes. Hein. Il y a quelque chose qui est dit, il y a en deux mots et deux mots d'après qui va contredire, par exemple, avec une négation. Hein, je vais vous donner des exemples au fur et à mesure. C'est vraiment des éléments qui sont aussi faits pour être mémotechniques. C'est-à-dire qu'un proverbe est toujours constitué pour être mémorisé très facilement. Hein. Donc on est bien là dans la situation d'une création de tradition orale. Hein. Comme on l'a vu, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir de... On n'a pas d'archives, hein, donc il faut qu'on puisse retenir très facilement. Donc on peut dire que dans la tradition occidentale, en tous les cas, le proverbe il va dire quelque chose qui est toujours une évidence, qui va être toujours quelque chose d'une vérité absolue. On ne peut pas dire un proverbe on ne peut pas contredire un proverbe autrement que par un autre proverbe la plupart du temps. Hein, c'est vraiment des espaces qui se confrontent de proverbe à proverbe. C'est des espèces de logique imparable. Qui sont très très difficiles à mettre en compte. Alors après, pour être dans cette évidence-là, on pourrait dire qu'il y a des on peut s'identifier, enfin les identifications de problèmes qui se font par des formules très élaborées, mais on va prendre des exemples, ce sera peut-être plus simple. Hein. Par exemple, partir, c'est mourir un peu. On connaît celui-là. Bien. Commander, c'est prévoir. Donc là, on est vraiment sur des espaces qui sont des formules qu'on a comme ça, qui disent bien des vérités. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des constats, mais qui sont aussi discutables, hein, bien sûr, mais on ne peut pas contredire le sens de ce qui est donné. Hein. On va aussi travailler beaucoup avec la négation dans les proverbes. C'est-à-dire qu'il y a des structures de proverbes qui vont annoncer une chose et presque passer à une négation de cette chose. Hein. Abondance de biens ne nuit pas. Abondance ne nuit pas. Donc, mais par contre, on peut aller dans des choses encore beaucoup plus loin. À quelque chose, malheur est bon. Donc il y a bien quelque chose, il y a le malheur qui est là, mais on va mettre à côté en opposition, en négation, ça peut être bon. Donc on va inverser dans les problèmes nos perceptions des états. C'est-à-dire qu'on va des fois remettre en cause quelque chose qui est un ressenti, comme ça, par une négation qui arrive derrière. Des grandes douleurs sont muettes. Donc des fois c'est simplement un mot qui va faire cette négation. C'est-à-dire le mot muet est un mot du silence. Donc systématiquement, on rentre dans une négation un peu particulière. Là où le problème est vraiment binaire, c'est souvent dans ce qu'on appelle des parallélismes, dans le proverbe. On va souvent trouver des choses comme ça, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Aujourd'hui, on dit plutôt déshabiller Pierre pour habiller Paul, d'ailleurs. On enlève ça. Donc ça aussi, il y a des adaptations. Mais ça, c'est déjà bien au côté du parallélisme, systématiquement, qu'on va retrouver très souvent, après la pluie, le breton. Il y a toujours des parallélismes comme ça, il y a toujours dans ce binaire. Donc il y a une rythmicité, il y a quelque chose qui s'affiche, qui va vraiment nous marquer au niveau de l'oreille. Donc, simplement pour dire que la structure du proverbe est quelque chose qui est vraiment très élaboré, on arrive à dire dans un proverbe des choses, des fois, où il faut dire un discours complet. C'est vraiment un concentré de sens. C'est vraiment un espace de plus concentré de sens. Alors, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, alors on va peut-être s'arrêter un peu aujourd'hui uniquement sur les sociétés africaines, où le proverbe est encore extrêmement présent, c'est évident qu'il y a des éléments qui sont intéressants de voir comment ils abordent le problème. Pour le pays du Centrafrique, par exemple, c'est vraiment des savoir-dire, les proverbes. C'est une science du dire. C'est vraiment un savoir-dire. Ils disent que c'est piler les mots. Et les enfants, on leur demande, dès qu'ils sont jeunes, d'apprendre à piler les mots, c'est-à-dire à les recomposer, à les casser pour les reproduire dans une force d'évocation immédiate, comme ça. On va trouver des phrases aussi qui sont très belles, moi je trouve, au Nigeria, par exemple, il y a une belle phrase qui dit « Des proverbes sont l'huile avec laquelle on mange les mots. » C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui fait saisir le monde de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus... agréable, on goûte les mots dans le proverbe aussi.
Je n'ai pas entendu, excusez-moi. On mange
des mots. Les proverbes sont l'huile avec laquelle on mange les mots. Le proverbe
arabe aussi dit que les proverbes sont
les
langues des mots.
Les langues des mots, oui. Donc on est toujours dans cette forme qui est très très simple, très très restreinte, très structurée, mais qui va vraiment être toujours très considérée dans toutes les sociétés de tradition orale. Alors, là où on s'aperçoit qu'il y a une grande vocation, le proverbe, c'est qu'on le retrouve souvent dans l'espace juridique. C'est vraiment un espace, dans beaucoup de sociétés africaines, où il va intervenir. Alors déjà, il y a les formes très très anciennes qu'on retrouve encore dans le Gabon de la forêt, de la forêt équatoriale, où là, c'est carrément, les conteurs sont là, donc c'est ces grands connaisseurs des proverbes, il y a un groupe de sages. Vous avez un compteur d'un côté pour la défense, l'autre compteur pour l'accusation. Et la cellule d'accusation va dire des proverbes qui enfoncent celui qui est en cause, et l'autre va chercher des proverbes qui disent le contraire. Puis les sages prennent leur décision. Mais on va dire qu'au-delà de ça, même dans les proverbes, il y a des espaces de proverbes qui sont extrêmement importants, dans lesquels il y a déjà des éléments de loi matérielle, on va dire, posés en tant que tels. Ne serait-ce que celui qu'on connaît, un œil pour œil, dent pour dent. On est bien là dans une recherche de l'équilibre. C'est le coupable doit payer ce qu'il a mis en route. Voilà. Donc on a énormément de proverbes comme ça qui d'entrée vont donner aussi des espaces de législation. Il y a des proverbes qui nous disent par exemple les coqs doivent chanter face à face. Et ça, on le retrouve souvent en Afrique dans des systèmes de procès. C'est-à-dire que quand il y a un procès, il faut que les deux personnes en jeu soient face à face. On ne peut pas faire le procès sans l'un. Donc on va avoir comme ça des choses qui sont décalées des fois, mais qui n'empêchent déjà des textes de loi. Alors des lois beaucoup plus ancestrales, par exemple, les épaules ne dépassent pas la tête. Et ça, c'est tout simplement pour dire que les jeunes ne peuvent pas prendre la place des anciens. Et souvent, dans les procès, on rappelle ce droit à l'aînesse, au travers de ce proverbe-là. Donc, il y a plein comme ça de proverbes en tant que tels qui vont être des régulateurs, des rappels permanents de la loi, qui sont jamais d'ailleurs formalisés, sauf dans le procès, mais tout au long de la journée, au travers de proverbes, on rappelle des règles, on rappelle des lois, on rappelle des espaces juridiques. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un espace et qui est très informel, c'est-à-dire que ce n'est pas posé comme une règle à accomplir, ça vient en à-propos. C'est parce que quelqu'un va transgresser à un moment donné qu'on va mettre le problème, le proverbe en route. Donc c'est quelque chose qui bien sûr va être à ce niveau-là relativement important. Alors comme on n'a pas énormément de temps, on va passer à d'autres genres, mais si après des questions, on pourra en reparler. Voilà, parce que le proverbe, on pourra en faire. Il y a des études depuis des centaines et des centaines d'années sur le proverbe. C'est une vieille question, la paréniologie. C'est une science d'ailleurs. Donc toutes les structures proverbiales sont vraiment très très complexes. Alors, on va peut-être faire un premier balayage de tous ces genres, puis comme ça, ça permettra éventuellement de revenir dessus. Alors, le dicton qui est très proche du proverbe, le dicton, lui, c'est évident qu'il est autre chose. La plupart du temps, le dicton, il va être très très proche de l'observation. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est d'une composition d'une vérité, mais c'est une vérité qui découle d'une observation longue. C'est-à-dire, ça va être souvent, les dictons vont être souvent en relation au temps, par exemple. Et on s'aperçoit que, bien sûr, les paysans, avant la science et avant la météorologie, pour pouvoir sauver des récoltes, et c'était quand même important de pouvoir sauver une récolte, eh bien, on se fiait sur les observations et sur les renouvellements, les fréquences, les permanences de chaque événement. On essayait de voir dans le calendrier s'il n'y avait pas des périodes qui étaient redondantes. Donc, et à ce niveau-là, on a ces observations qui, aujourd'hui, ont été vérifiées, d'ailleurs dans certaines études, pas pour toutes, il y en a qui tombent complètement, parce qu'elles sont plutôt basées sur des croyances, mais il y en a quelques-unes qui sont complètement confirmées, qu'utilisent encore d'ailleurs les agriculteurs. Et qu'est-ce qui va se passer, en tous les cas en France et en Europe, avec ce dicton? C'est que pour trouver une échelle de mesure dans le temps, on va se relier au calendrier, et en particulier au calendrier des saints. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a énormément de dictons, donc on pourrait en prendre quelques-uns, qui sont complètement reliés au niveau du... Donc, bon, autant, bien sûr, à Saint-Paulin, on compte les hirondelles autour d'Amiens. Donc ça, c'est un tour, c'est-à-dire que là, c'est sur le mois de janvier. Donc vous voyez, c'est... À Saint-Hilaire, le vin gèle dans le verre. Donc là, c'est la question du froid, qui sont bien sûr là. À Saint-Sébastien, l'hiver s'en va ou revient. Saint-Sébastien, c'est le 20 janvier. Donc si on va plus près de nous aujourd'hui, tiens, pourquoi pas, on va aller voir au mois de mai. C'est à la Saint-Antoine que vend son vin le malin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la Saint-Antoine que vend son vin le malin, les viticulteurs. C'est au mois de mai, la Saint-Antoine. Donc c'est le vin qui commence à être du vin qui tourne souvent, qui commence à travailler. Et c'est oui, il est bon ou il n'est pas bon. Donc si on peut s'en débarrasser avant qu'il soit mauvais, on est bien content. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est par exemple le 6. S'il pleut à la petite Saint-Jean, toute l'année, ça en ressent jusqu'à la grande Saint-Jean. Alors aujourd'hui, donc, on est la petite Saint-Jean. C'est Sainte-Prudence. Donc, s'il n'y avait plus aujourd'hui, il risquait de pleuvoir jusqu'à la Saint-Jean d'après. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des observations comme ça qui ne sont pas fausses. C'est-à-dire que les anciens nous diront, il y a les cavaliers, il y a les comment ça s'appelle ? Les saints de glace, il y a la veine rousse, donc il y a aussi le calendrier lunaire qui est avec ça. Et c'est évident que tous les vieux jardiniers savaient ces dictons, parce que c'était des repères, tout simplement, pour le jardinage. Donc les dictons, on est vraiment dans ces espaces du constat. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence avec le proverbe, mais souvent, on va les associer. Ce n'est pas du tout les mêmes espaces. Donc après les dictons, dans toutes ces petites formes, il y a quelque chose qui va être très important aussi, c'est les devinettes. Alors on peut dire que les dictons et les proverbes, c'est des choses qui se distribuent comme ça, un pour les vérités absolues, l'autre pour les observations redondantes, on va dire, les choses redondantes du climat. Avec les devinettes, on rentre dans un autre domaine, qui est pour moi le domaine éducatif par excellence. C'est-à-dire que la devinette va énormément travailler sur une forme qui est la métaphore. C'est-à-dire qu'on va créer des métaphores, on va créer des images. elle va souvent nous ramener à une observation détaillée des objets qui sont en jeu. Si je vous dis 5 blanches prairies, on va penser là, pour commencer, même si ce n'est pas de l'oralité, ce n'est pas grave. Blanches prairies, 5 bœufs tirent la charrue. Blanche prairie, 5 bœufs tirent la charrue. Qui suis-je? Ah non, pardon, c'est moi qui suis fatigué. Blanche prairie, noire semence, 5 bœufs tirent la charrue. Dans quel élément? Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir recomposer? En gros, on fait des images. Blanche prairie, quelque chose de blanc. Pourquoi pas, de quelque chose de blanc en tous les cas. Noir semence, quelque chose de noir sur le blanc. Et 5 bœufs qui tirent la charrue. Oui, pourquoi pas. Hein? Alors c'est quoi? Vous prenez un stylo, votre bille, tu as des crayons. Blanche prairie, noir semence, 5 bœufs tirent la charrue. C'est l'écriture.
D'accord?
Donc on est dans un espace. En permanence, où la devinette est un espace où on doit recomposer hein, des espaces de cet ordre-là. Donc, ces espaces-là sont souvent des joutes qu'on retrouve dans beaucoup de pays, en particulier les pays du Maghreb, qui ont beaucoup pratiqué ces joutes-là. Chez les Kabyles, il y a un jeu, je vous donnerai quelques bouquins, vous pourrez les consulter après. Hein. Les Berbères ont vraiment eu une tradition très forte au niveau de ces joutes-là. Hein. C'est vraiment des. Donc il y a un jeu qui s'appelle le Timsal, des joutes qui s'appellent le Timsal, hein, où on compose de façon très poétique, comme ça, des éléments qui touchent aux arbres, aux plantes, au ciel. Donc vraiment, il y a des matières absolument superbes qui sont disponibles dans cet espace-là. Alors pour l'enfant, ça veut dire quoi? Que quand il se pose ces questions-là, bien sûr, il y a une vraie éducation. Hein. Je l'avais déjà donné, pour certains qui étaient déjà là, une autre devinette qui était un ventre de coton, un dos de charbon, une aiguille devant, un ciseau derrière. Bon, c'est pareil, on se fait des images, ventre blanc, peau noire, toute pointue, queue en ciseau. On peut se dire que c'est un oiseau. Hein, mais c'est quel oiseau?
Une hirondelle.
Voilà, une hirondelle. Hein, parce que quelque part, l'hirondelle en tant que telle, bah, si vous prenez la pile, elle est aussi blanche et noire, mais elle a la queue en battoir. Et systématiquement, on va être dans le détail de l'objet tout le temps. Donc, on est vraiment dans une éducation des sciences naturelles, par définition. Hein. Et chaque élément qu'on va trouver, bien sûr, va être dans ce sens-là. Donc, on est vraiment là dans un lieu de l'observation, dans un lieu de. Mais aussi dans l'apprentissage de la langue, puisque ça veut dire qu'il faut métaphoriser tout ça. Il faut le rendre poétique, il faut jouer sur l'espace du caché trouvé. C'est trouver des éléments essentiels en même temps et repérables. Hein, ce n'est pas n'importe quel élément qu'on va trouver. Donc je dirais que même aujourd'hui, avec les taux d'illettrisme qu'on a et le nombre de personnes qui connaissent des mots génériques, hein, qui vont dire rossignol, c'est un oiseau, qui sont incapables de les décrire, si on travaillait plus souvent avec les devinettes, peut-être qu'on arriverait à recomposer des images plus claires hein, sur ce que c'est qu'un rossignol, par exemple. Hein. Donc les devinettes sont des choses qu'on peut créer tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas des choses, il y a des choses dans le répertoire, mais il y a des choses qu'on crée en permanence. Donc le Timsal, ça va de la famille qui joue dans la soirée, mais ça va aussi jusqu'à des joues de village à village. Le village poétise, envoie la devinette à trouver, le village trouve, renvoie une autre devinette, ça devient une espèce de jeu carrément identitaire. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi celui qui a la plus belle formule poétique pour définir, là, c'est celui aussi qui va gagner. Hein. Voilà. Donc cet espace de devinette est un élément important. Après les devinettes, il y a les énigmes. Alors les énigmes, ça paraît aussi très proche parce qu'on pose aussi une question. Hein. Mais autant la devinette demande une réponse très 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 précise, autant l'énigme est là pour mettre un peu dans l'embarras tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Bon, chacun peut avoir la sienne. Hein. Alors je peux essayer d'en trouver une, par exemple. Bon, je la raconte comme ça, tant pis si elle n'est pas... C'est par exemple dans une énigme africaine, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui revient de la fête, il est avec sa femme et sa belle-mère. Et il est sur le bateau. Hein, voilà. Et puis à un moment donné, sur le bateau, il y a le crocodile qui rentre et qui lui dit maintenant, tu choisis. Il faut que tu en gardes, de tes femmes, il faut que tu en gardes une ou l'autre tu la manges. Laquelle tu me donnes? Là, le compteur se retourne au public et il est où? Voir l'énigme va être un espace où il n'y a pas de réponse, c'est un choix. C'est un lieu de l'ambiguïté, c'est un lieu où on vous met dans une situation comme ça. Il y a des quantités à l'Afrique d'énigmes comme ça qui sont des lieux où on se met en discussion. C'est aussi là, le public va prendre la parole et va dire mais moi je peux faire avec eux, d'autres. Voilà. Donc il y a toute une série comme ça qui est très, très particulière. Donc c'est moins construit de façon poétique, c'est plus en relation sociale et souvent c'est un élément qui ne demande pas une réponse précise. C'est une réponse beaucoup plus lâche, on va dire. Donc là, je dirais que c'est l'apprentissage du social. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre. Il y en a une qui était très belle aussi, c'est un jeune adolescent qui croit que tout est possible, comme ça. Et puis qu'un jour, par la chasse, tout fier, il voit un très bel oiseau, il prend son arc, il commence à vouloir le tirer. Et l'oiseau, il dit, si tu me tues, tu tues ton père. Mais si tu ne me tues pas, tu tues ta mère. Choisis. Donc on est toujours dans ces espaces de... voilà. Et à partir de là, le discours redémarre. C'est-à-dire que bon... on est obligé de reprendre la parole. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Voilà. C'est un lieu de la mise en route d'une parole. Hein, qui touche souvent, justement, des espaces familiaux, des espaces... Alors, en dehors des énigmes, on va aller encore un peu plus loin, il y a après des espaces d'apprentissage de la langue. Hein, il y a deux formes qu'on confond aussi souvent. Ce sont les vires oreilles et les vires langue. Alors, le vire-oreille, il est très simple à dire, mais pas facile à entendre. Tonté, t'a-t-il, ôté, t'a-tout, oui, monté, m'a ôté, m'a tout. Tonté, t'a-t-il, ôté, t'a-tout, oui, monté, m'a ôté, m'a tout. D'accord ? Donc, c'est des jeux, mais il n'y a aucune difficulté à dire ça. D'accord ? Mais par contre, il y en a qui sont très difficiles à dire, on peut fourcher, et quand on fourche, on rentre dans le tableau. Six doigts, six caisses, six fûts, six doigts sur le trou du fût. Vous voyez, on peut fourcher. Donc ça veut dire que l'enfant qui joue avec ça, il sait qu'il va, il risque de... Et du coup, la langue, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir la manipuler comme nous. Il y a une conscience que les mots, il faut savoir les dire, les prononcer, donc savoir aussi, à terme, bien savoir comment ils sont composés, parce que sinon, on peut fourcher. On peut très vite tomber dans l'espace tabou, l'espace interdit. Donc ça, c'est vraiment des espaces aussi qu'on va retrouver de façon très fréquente. Il y a des quantités de vire-langue, mais alors, incroyable. Entre petites formes. Ensuite, il va y avoir des choses qui sont peut-être plus intégrées, on va dire, dans la tradition. C'est les comptines, les toutes petites comptines qui servent. Donc c'est le seul dans l'orthographe, d'ailleurs, qui a gardé son P, C-O-M-P-T-E. Parce que l'étymologie de compte, c'est bien compte plus tard, c'est comme compter. Et là, c'est le seul qui a compté parce que justement, c'est une formule souvent qui va permettre d'extraire quelqu'un dans un jeu. C'est tout ce que les plumes que vous connaissez tous dans les cours de récré, c'est des comptines. Donc là aussi, il y a tout un répertoire, plus ou moins connu d'ailleurs, mais bon, je ne sais pas si on peut en trouver une. Lune, je te vois, c'est Madame Croquebois qui baptise ses enfants, les petits comme les grands, la Lise et Lise. Qui veut qu'on la frise, son petit papa ne le veut pas, il veut qu'on la mène là-haut dans la plaine pour recueillir des fleurs de toutes les couleurs. Donc c'est souvent des choses qui sont, au fur et à mesure on tourne et c'est le dernier qui, hop, sort. Et au fur et à mesure on élimine dans le cercle des personnes. Alors ça, il y en a des pareils, il y a des répertoires qui existent. Moi, je vais vous donner un qui est un peu une référence. C'est un vieux bouquin. Ça, je vous le montrerai après si vous voulez. Autre petite forme. Donc, elle le sert plutôt à. Pour moi, dans l'espace de la fonction, là, on est dans un lieu de l'élimination de la comptabilité. Mais c'est mine de rien, c'est comment le groupe est dépendant de ça. C'est comment la parole va gérer aussi la sortie du groupe, comment la parole, le hasard, le destin de la parole va gérer aussi l'équilibre. Quand il y en a trop, on en sort un. Mais comme on ne veut pas se mouiller dans le choix, c'est ce récit-là, cette comptine-là qui va déterminer, par le hasard, qui va sortir. Donc on est déjà dans l'apprentissage du social et de l'équilibre. Ensuite, quelque chose qu'on va retrouver très 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 souvent, c'est ce qu'on appelle des mimologismes. Alors, les mimologismes, c'est toutes les petites histoires qui nous racontent ce que disent les animaux quand ils chantent. Alors, j'essaie d'en trouver, mais Là, c'est pareil, collection entière de mimologismes. Alors ça, je dirais que c'est peut-être quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui parce qu'on connaît tellement peu les animaux et qu'on les rencontre tellement peu en situation naturelle qu'on ne les écoute plus non plus, on n'essaie plus de savoir ce qu'ils nous racontent. Hein, je crois qu'il y a cet espace. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais choisir ? Ça, c'est en catalan en plus, donc je vais le redire en français. Hein. Alors c'est des petites histoires souvent comme ça. Alors, j'ai trouvé une un peu courte parce qu'il y en a qui sont longues des fois. C'est pas grave, je n'ai pas préparé, donc on cherchera. Vous comprenez ce que c'est, hein. C'est coq, oui, que le coq qui parle à ses poules, quoi. Mais on va dans, comme un chant, imiter le coq en train de parler à ses poules. Hein. C'est vraiment une. J'en trouve une, parce que sinon je ne vais pas comprendre. Voilà, donc quand l'alouette chante, elle fait paradis, hein. Donc elle dit au paradis, tout y luit. Hein. C'est-à-dire qu'au paradis, tout y brille, hein, tout simplement. Donc on va interpréter le chant de l'oiseau. Hein. Alors ça, c'est important pour les sociétés de chasse, les sociétés où on chasse, pas les sociétés de chasse, on va prêter à confusion. Les sociétés où l'on chante, c'est savoir entendre aussi, savoir mémoriser un chant d'oiseau. C'est-à-dire que quand on commence à connaître un petit peu tous ces éléments-là, on a beaucoup plus de facilité. Moi, je sais que mon grand-père m'apprenait les chants d'oiseau comme ça. Il n'imitait jamais le chant d'oiseau, mais derrière, il imitait l'histoire. Et c'est l'histoire qui va faire sens, et c'est l'histoire qui va faire mémoire. C'est des toutes petites phrases comme ça qui restent et qui deviennent des lieux de mémorisation. Comment ?
Il y a le « Je pond pour Pâques » de la poule, vous le connaissez ?
Non.
Non. « Je pond pour Pâques ».
Ah, tu me prends pour Pâques ?
Je pond pour Pâques.
Alors, beaucoup de ces mimologismes sont bien sûr reliés aussi aux religieux, parce qu'ils ont servi aussi à relier ces animaux à l'espace de formation religieuse à l'époque. Hein. C'est-à-dire tous ces éléments-là ont été souvent récupérés dans le côté laïque pour être ramenés aux religieux. Et aujourd'hui, quand on veut les reprendre, souvent, si on ne veut pas rester dans le religieux, il faut retrouver l'espace archaïque